que je démarre, j'ai intitulé mon intervention « La veuve, une figure à facettes de la ségrégation des femmes ». Alors le titre de la soirée, ségrégation, enfin de la soirée d'aujourd'hui, c'est « Ségrégation familiale », m'a fait songer par association d'idées à une famille en particulier, une famille moderne, recomposée, une famille reconfigurée selon les possibilités qu'offre notre époque, la famille Hallyday. À moins d'être ermite et coupée du monde, impossible de ne pas savoir un petit quelque chose des conséquences du décès du pater familias Johnny Hallyday. Ce décès entraîne un nouveau statut pour sa dernière épouse, elle devient veuve. Dès lors que ce signifiant est utilisé, il entraîne un jugement négatif et s'accole à divers adjectifs péjoratifs, j'y reviendrai. Faisons d'abord un détour par l'Inde, où la veuve, dans la suite d'une longue tradition hindouiste, perd son statut à la mort de son mari, est reléguée comme domestique au sein du foyer, donc c'est une ségrégation vraiment intrafamiliale, qui peut même être rejetée. Pardon ?
Moi, je croyais qu'on la brûlait aussi.
Alors, mais je vais y venir. Mais c'est fini, hein. Et d'ailleurs, elle n'est pas... Je vais y revenir. Donc, la veuve, ou le mariage est une institution hyper importante en Inde, donc quand la veuve perd son statut d'épouse, elle est en général plutôt reléguée comme domestique au sein de la famille, mais elle peut quand même être rejetée, démunie de ses biens, condamnée à mendier. Donc la castration mortellement vécue par l'épouse s'applique donc aussi à l'épouse. Certaines de ces veuves se regroupent dans des temples ou dans ce qu'on appelle des maisons de veuves, ou encore aujourd'hui des milliers de veuves se regroupent. La veuve indienne reste concernée par une pratique aujourd'hui très résiduelle nommée sati, qui a fasciné les penseurs et voyageurs européens, dont Montesquieu et Voltaire. Montesquieu dans les lettres persanes et Voltaire dans Zadig. Enfin, si on attend à la discussion, j'y reviendrai. Alors, cette pratique consiste effectivement pour une veuve à se faire brûler sur le bûcher de son époux décédé, le sati. Si la pratique a connu son apogée à la période des guerres entre États princiers dans ce qui n'était pas encore l'Inde, elle a décru face aux valeurs universalistes portées par les Lumières, des valeurs qu'on sait comme civilisées, chrétiennes, humanitaires. Voici d'ailleurs un élément qui nous arrête, ce lien avec la ségrégation des veuves qui va venir et l'universalisme. Cet universalisme d'ailleurs que dénote le titre de l'album posthume de Johnny Hallyday qui s'intitule, si vous avez raté, « Mon pays, c'est l'amour ». Un lien que Lacan mentionne, le lien ségrégation et universalisme, pointant, alors c'est dans l'allocution sur les psychoses de l'enfant en 1967, Lacan pointe la remise en question de toutes les structures sociales par le progrès de la science, remise en question qui charrie cette interrogation, comment faire pour que des masses humaines vouées au même espace, non pas seulement géographique, mais à l'occasion familiale, demeurent séparés. Alors, j'ai une question, là. L'universalisme produit-il le séparatisme et ou le particularisme ? C'est pas tout à fait la même chose. D'où s'origine cette pratique du sati ? Alors, d'un mythe lié à un courant de l'hindouisme. Ce mythe est celui de Sati, l'épouse de Shiva, qui se tue quand son père refuse à son mari l'accès à une fête organisée par les dieux. Shiva, fou de rage de la mort de sa bien-aimée, lance son cadavre en le faisant virevolter au-dessus de sa tête, comme ça, et les membres du corps tombent un à un dans les régions les plus éloignées de l'Inde, où ils donnent naissance à des lieux sacrés. Ces bouts de femmes deviennent ainsi des figures incarnées de l'autre avec un grand A. Ces lieux sont réputés pour être investis par l'énergie féminine appelée Shakti. Cette notion de Shakti est fondamentale pour comprendre le rite, puisque c'est ce concept d'énergie féminine et son incarnation en toute femme qui en supporte le fond idéationnel. Évidemment, je vous propose d'entendre Shakti, cette énergie féminine, comme un nom donné à la jouissance. Chaque femme incarne donc une énergie divine ou cosmique, tandis que les hommes peuvent obtenir une partie de cette énergie uniquement par le biais de leur lien avec les femmes, avec leurs femmes. L'énergie féminine incontrôlée est, vous vous en doutez sans doute, extrêmement dangereuse. Et elle conduit au chaos si elle n'est pas maîtrisée. Il s'agit de réguler ou d'assujettir cette jouissance. Notons que ce glissement entre régulation et assujettissement fait justement le fond des procès en ségrégation. Une dernière remarque relative à ce rite, le concept de vérité y est central. Sat, donc il suffit de retirer un i de sati, signifie entre autres la vérité. Commettre le sati, c'est-à-dire brûler volontairement sur le bûcher de son mari décédé, permet de révéler la vraie nature de la femme. La qualité de la femme est déjà présente et antérieure au rite. Seule la femme vraie, sati, peut devenir une sati, une divinité. Donc le sati ne crée pas, il révèle et sanctifie ce qui existe déjà. Et ce qui est illustré par une sati célèbre qui en fait va prendre feu au moment même où elle monte sur le bois prévu pour le bûcher de son époux. Une femme d'exception donc. Repérons que ces femmes sati passant d'épouse à divinité s'exemptent, s'exceptent du statut de veuve. D'épouse dont l'énergie, la jouissance est contenue dans le lien conjugal, elle passe à divinité hébergée dans des lieux sacrés, une façon certes élégante de les soustraire à l'espace public, au moins à la circulation dans l'espace public, et de circonscrire leur énergie. Qu'en est-il des veuves dans nos contrées où on ne leur propose pas cette échappée ? Je vous propose tout d'abord de noter le féminin du signifiant « veuve » dans notre langue, notre langage commun, entre guillemets, c'est-à-dire notre langue au sens le français. Je cite un dictionnaire. « La prédominance du genre féminin en ancien et moyen français, pour les mots veuve, entraîne l'usage de l'adjectif féminin qualifiant un homme. » Au XVIe siècle, la prise de conscience de l'antagonisme grammatical entre les deux mots, puisqu'on disait « homme-veuve », ou on disait « veuve de femme », amène la formation du masculin « veuf », donc qui est tardif, sur le modèle du couple « neuf-neuve ». Les traces de cette prévalence féminine du mot, cette antériorité féminine, se retrouvent dans des syntagmes comme « veuve noire »,« veuve abusive », »,« veuve joyeuse », »,« veuve légère », »,« veuve scabreuse », etc. Que l'on entend et qu'on ne lit pas au masculin. Pas de veuve noire, pas de veuve abusif, pas de veuve scabreux. Laetitia Hallyday... Pardon ?
Ni veuve joyeuse.
Ni veuve joyeuse. Laetitia Hallyday sera mise sur la sellette comme « veuve abusive », caricaturée en mante religieuse... Les avocats vont s'écharper à son sujet. Ma cliente n'est pas une gangster. Ou alors, Madame Boudou, c'est quand même son nom de jeune fille et pas son nom d'épouse. Hein. Madame Boudou est une manipulatrice, etc. L'ambiguïté de la figure de la veuve est assez sidérante. On peut osciller entre de redoutables séductrices, disposant des armes de la séduction, avides de conquête ou de revanche, ou des proies démunies à la merci de charlatans. On va sauter de la veuve héroïque, honorable, accablée, meurtrie, à la putain, la débauchée, la malfaisante. Un article d'un historien des médias du 19e et 20e siècle est ainsi titré « Veuve éplorée, veuve joyeuse, veuve scabreuse ». On saisit ici tout le poids des signifiants qui tient à leur ambiguïté imaginaire. Cette ambivalence se repère dans le traitement de l'espace dévolu aux veuves comme dans leur habillement, à l'époque où le vêtement de deuil pouvant, à l'occasion, se transformer en atour érotique. À Paris, au XVIIIe siècle, une allée des veuves, contre-allée jusqu'alors peu fréquentée des Champs-Élysées, servait de lieu intermédiaire entre la réclusion requise au début du sauvage et l'apparition publique au spectacle, possible une fois le deuil terminé. Cette promenade vespérale, tolérée pour la veuve parce qu'elle se déroulait dans la pénombre, est devenu progressivement, au tournant du siècle, au début du XXe, un lieu de rendez-vous galant. Ces veuves se tiendraient-elles au carrefour de la jouissance et du savoir ? Détiendraient-elles un savoir sur le sexe, la jouissance, la mort ? Je rappelle que le terme veuve était identifié avec la guillotine, et épouser la veuve signifiait être pendu ou guillotiné. Je rappelle aussi l'expression « la veuve poignée », qui signifiait la masturbation masculine. Les veuves d'artistes, Sonia Delaunay, Nina Kandinsky, mais plusieurs en ont témoigné, étaient sommées de narrer comment était la vie avec cet artiste. On exigeait le récit de la mort de l'artiste, de ses petits habitudes du quotidien du grand homme. Aux sorcières aussi, avant de les brûler, on posait la question « Comment était le pénis du diable ?» Cette identification des veuves à un trait de jouissance les met en position de désordonner les identifications symboliques collectives. Dans le séminaire Oupire, j'ai rajouté un petit truc sur le séminaire Oupire, Lacan articule deux termes qu'on pourrait a priori opposer, le signifiant et la jouissance. Et c'est à l'intersection de ces deux champs que se pose la question de la féminité, qui précisément révèle en quoi ces deux champs se recouvrent ou se disjoignent. Alors, je ne vais pas résister dans mes lectures, je suis tombée sur une caricature de Meg, la voilà. Je vais vous la faire passer. Donc, c'est une femme nue, très joufflue, très, voilà, qui sort d'un puits. Et le sous-titre, c'est « La voluptueuse Meg cherchant la vérité ». Bon, si vous voulez la faire passer. Mais ça, c'est un, Le Rire, ça s'appelait. C'est un journal caricaturiste. Et c'est de 1909. Pourquoi je ne résiste pas à vous montrer cette caricature? Parce que cette dame, qu'on surnommait Meg, Margaret Steinheil, comme vérité nue qui sort du puits, donc à la place du trou, de la faille, de la perte dans l'autre, c'est une vérité obscène et joufflue qui jaillit. Alors Meg, elle est impliquée en 1908 dans les décès de sa mère et de son époux, découverts morts à son domicile. Alors d'abord décrite comme victime inconsolable, elle est bientôt, elle passe de l'autre côté, bientôt accusée du double meurtre. Bon, elle sera finalement acquittée au bout d'un procès retentissant. Mais cette dame était aussi la fameuse connaissance dans les bras de laquelle était décédé en 1899 le président Félix Faure. Que nous enseigne ce petit voyage au pays des veuves? Que la ségrégation est inséparable d'un maniement des signifiants. Que la ségrégation a à faire avec la jouissance supposée de l'autre et supposée à l'autre, l'autre qu'on ségrègue. Et que la ségrégation se voile d'une limitation de cette jouissance pour prescrire et proscrire des espaces privés comme des espaces communs. Si l'on saisit la ségrégation comme un traitement social de la jouissance, y compris la jouissance de la langue, une ségrégation qui permettrait de limiter, contrôler les équivoques signifiantes, de les cibler éventuellement sur un groupe particulier, alors on saisit cette remarque de Lacan dans l'inverse de la psychanalyse en 1970. Je le cite, « On n'en a jamais tout à fait fini avec la ségrégation, et même je peux vous dire que ça ne fera jamais qu'à reprendre de plus belle et que rien ne peut fonctionner sans ça. » Un peu plus tôt, dans le même séminaire, Lacan notait, « On peut dire que la jouissance est limitée par des processus naturels. Nous avons fini par considérer comme naturelle la douilletterie dans laquelle nous entretient une société à peu près ordonnée. » Merci.